Bonsoir, c'est une classification subjective et imparfaite, alors permettez-moi de vous la soumettre. Il existe deux types d'arnaqueurs sur Internet et sur les réseaux sociaux. D'abord, ceux qui portent un masque restent anonymes et vous envoient des courriels comme on envoie des bouteilles à la mer. Et puis, il y a les arnaqueurs dont le visage est connu, dont l'image et ce qu'elle renvoie, leur notoriété sont les appâts qui permettent d'attirer leur proie. C'est de ces derniers dont nous parlerons ce soir, car jeudi dernier, un coup de projecteur a été porté dans leur direction. Par qui ? Par le rappeur Booba, artiste controversé qui, après avoir été lui-même piégé, accuse plusieurs influenceurs d'escroquer leurs abonnés. Alors qui sont ces arnaqueurs influenceurs qui habitent Instagram, YouTube ou Snapchat et visent souvent les plus jeunes et les adolescents ? Quelles sont leurs méthodes, leurs réseaux, leurs victimes et comment lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur ? Voici quelques questions qui traverseront durant 45 minutes le temps du débat d'été.
France Culture, le temps du débat. Quentin l'a fait.
Et pour débattre ce soir avec nous, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Jean-Baptiste Boisseau à distance, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de Signal Arnaque, une plateforme communautaire de signalement de l'escroquerie en ligne. Avec nous en studio également Yannick Ponce, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, directeur de création chez Reach, entreprise experte de l'influence marketing créée en 2015, qui accompagne des marques dans leur stratégie d'influence. Et avec nous enfin Marjolaine Corr, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante, membre du collectif de presse Extramuros. Vous avez publié plusieurs enquêtes à France Inter et dans les jours sur le marketing sectaire et les influenceurs. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Nous allons débattre durant 45 minutes. Bienvenue dans le temps du débat.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ? Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.
Fais le bon choix. Bisous.
La question, elle est vite répondue. Eh bien, nous allons tenter de prendre un peu plus de temps pour débattre ce soir. C'était l'extrait d'une vidéo fameuse diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux le 9 juin 2020. Une vidéo visionnée par plus d'1,2 million de personnes sur Instagram, 2,5 millions sur Twitter. Son auteur, c'est un Suisse de 21 ans, dénommé Jean-Pierre Fanguin. Sa promesse, de l'argent facile, la réalité, un rabatteur, point d'entrée vers un vaste système d'escroquerie financière. Alors, c'est une histoire parmi d'autres qui résonne cependant avec les affirmations du rappeur Booba dans le journal Libération la semaine dernière à propos des influenceurs. Et je voudrais citer Booba, c'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté et un peu plus loin. Alors avant d'entrer dans le détail, quelle est l'ampleur du phénomène de ces arnaques et de tous les influenceurs peuvent-ils être dans... Est-ce que tous les influenceurs, pardon, peuvent être mis dans le même sac ? C'est la première question que je voulais vous poser, Jean-Baptiste Boisseau.
Alors non, absolument pas. Ils sont vraiment pas à mettre tous dans le même sac. Effectivement, on a une majorité d'influenceurs sur les réseaux sociaux, qui sont des gens plutôt vertueux. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a un certain nombre d'influenceurs qui sont très visibles, c'est-à-dire vraiment qui sont dans parmi les plus vus, en tout cas dans l'espace des réseaux sociaux français, qui effectivement propagent un certain nombre d'escroqueries dont ils sont plus ou moins partie prenante, et ce depuis plusieurs années.
Yannick Ponce, vous êtes d'accord avec ça ? C'est difficile de mettre tous les influenceurs dans le même sac. Et puis surtout, comment est-ce qu'on distingue le bon du mauvais influenceur ?
Entièrement d'accord. Il y a une extrême majorité des influenceurs qui sont bons sous tout rapport. Chez Reach, on fait une étude tous les ans qui questionne le milieu de l'influence. Et en fait, il y a 150 000 influenceurs en France, dont une extrême majorité qui fait très bien le travail. Et en fait... Quand on pose la question de est-ce que les influenceurs sont des arnaqueurs, j'ai l'impression qu'on est en train de tirer sur cette masse que sont les influenceurs, et c'est le risque aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais bien différencier les deux. On a des influenceurs qui sont des passionnés, qui ont envie de partager leur passion avec une communauté qui se sont créés. Et on a une extrême minorité de gens qui utilisent les réseaux pour générer des arnaques.
Alors je voudrais quand même vous faire réagir à cette autre citation de Booba. Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité, de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent les citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant, je cite, des saloperies. C'était un extrait de l'entretien que Booba, le rappeur, a donné à Libération. Là encore, est-ce que vous avez une réaction ?
Alors, dans certains cas minimes, oui, je suis d'accord. Il y a des dérives, et les dérives, il faut les combattre aujourd'hui. Mais je répète, il y a aussi un monde vertueux de l'influence, avec des acteurs qui font bien leur travail. Et voilà.
Jean-Baptiste Boisseau.
Oui, alors en réalité, Booba, là, il cible des influenceurs bien particuliers. Ce sont les influenceurs issus du monde de la télé-réalité. Effectivement, c'est un écosystème bien particulier.
Marjolaine Corr, vous avez travaillé sur ces influenceurs et plus particulièrement sur ces arnaques qui constellent les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à le mesurer ?
Alors ça, c'est vraiment très compliqué parce que le nombre de victimes est inconnu. Très peu vont porter plainte. Ils ont généralement assez honte en fait de ce qui s'est passé et remonter la pente est difficile derrière. Donc se manifester et dire... admettre qu'on a été arnaqué, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, il y a une question aussi sur la définition de l'influenceur. C'est que on parle souvent de l'influenceur comme étant celui qui a un compte avec beaucoup d'abonnés. Je dirais que l'influenceur, c'est aussi une personne qui est un modèle, qu'une communauté va suivre, en qui elle a confiance en fait. Et donc, ça veut dire qu'on peut être un influenceur avec 5000 abonnés s'il y a beaucoup d'échanges et qu'on arrive à les embarquer dans notre histoire. On peut faire beaucoup de grabuges sur une petite communauté, mais qui représente déjà pas mal de victimes, quoi. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que l'influenceur, avant d'être un gros compte, c'est un compte qui arrive à s'imposer comme un modèle et à embobiner des gens, dans le cas de ces arnaques en tout cas, parce qu'en fait on va avoir beaucoup de jeunes qui vont monter leur page Instagram, qui vont derrière défendre des idées. Là, moi je me suis intéressée à la formation au trading. On leur vend une formation au trading en leur disant derrière vous arriverez à faire de l'argent et à investir, donc vous n'avez pas besoin d'une grosse mise de départ. Et puis en plus, vous allez vendre la formation à vos copains, comme ça vous vous ferez de l'argent et vous investirez cet argent dans le trading. Voilà l'histoire qu'on leur raconte. Ils sont pas nombreux dans chaque communauté, parce que souvent c'est des proches. Et c'est des proches qui font gonfler leur communauté en se coupant du reste et en devenant des micro-influenceurs. Et ceux-là peuvent aussi faire des dégâts. Et ceux-là, ils passent vraiment sous les radars par rapport à ces influenceurs de la télé-réalité.
Jean-Baptiste Boisseau, on parle d'arnaques, mais il y a des arnaques de type nombreux. Est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques-unes, ou du moins les arnaques les plus courantes que l'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux et surtout celles qui sont avancées par les influenceurs?
Oui, alors je dirais qu'on a vraiment trois types. On a tout d'abord tout ce qui est relatif à des ventes. Donc ça peut être des ventes de produits qui sont de mauvaise qualité, qui ne sont pas conformes à la réglementation, qui sont carrément des produits illégaux. J'ai par exemple vu récemment un candidat de la télé-réalité qui est extrêmement suivi proposer de vendre des permis de conduire. Vous avez aussi des ventes qui sont tout simplement des boutiques fantômes, c'est-à-dire vous allez faire une commande et vous n'allez rien recevoir. Vous allez avoir des abonnements cachés, c'est-à-dire vous faites un achat et puis à l'occasion de cet achat, vous allez sans vous en rendre compte vous retrouver prélevé d'une certaine somme tous les mois. Vous allez aussi avoir un certain nombre de pratiques qui vont consister à vous prendre de l'argent auquel vous avez droit, par exemple, sur votre compte personnel formation. Donc voilà, ça c'est une première catégorie, tout ce qui est arnaque type vente. Donc tout ce qui est arnaque ensuite type jeu, là on va avoir des jeux concours avec des faux jeux concours, c'est-à-dire on vous promet qu'il y a quelque chose à gagner, en réalité il n'y a rien. Mm-hmm. Vous avez aussi tout ce qui est pronostic, où on vous dit avec nous vous allez gagner à tous les coups, et évidemment c'est un petit peu truqué. Et puis vous avez aussi tout ce qui est casino, où c'est très bien encadré en France, les jeux type casino, mais en réalité il y a beaucoup de sites qui se débrouillent pour être utilisés par des utilisateurs français alors que normalement ils n'y ont pas droit. Et donc pour ça il y a notamment des influenceurs qui se font payer. Et puis enfin vous avez une troisième catégorie, c'est tout ce qui est placement financier. Et donc, par exemple, vous avez parlé de trading tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler de tout ce qui est placement alternatif avec les crypto-monnaies ou encore des placements type les schémas pyramidaux où vous allez rentrer dans un réseau et puis on vous dit si vous parrainez X membres, ça va vous faire des bonus. Et puis effectivement, comme dans tout principe pyramidal, les dernières entrées finissent par payer pour tout le monde au moment où la pyramide s'effondre, c'est-à-dire au moment où on n'arrive plus à recruter qui que ce soit.
Marjolaine Corr, est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de, avec cette triptyque,
si je puis dire ? J'en rajouterai une, c'est l'aspect santé, parce qu'on trouve aussi beaucoup d'influenceurs qui vont faire des concours pour gagner une opération de chirurgie esthétique à l'étranger, aussi des appareils pour blanchir les dents, et j'en passe. Il y a vraiment énormément aussi de produits de ce type qui sont vendus et qui sont néfastes pour la santé, si ce n'est dangereux. Donc ça, c'est une catégorie à prendre en compte aussi.
Yannick Pons, est-ce que toutes ces activités sont inhérentes, je dirais, au modèle de l'influenceur, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, au fond, qui sont très très loin de ces trois ou quatre activités qu'on vient de décrire ?
Alors, il y a une extrême majorité d'influenceurs qui en sont loin, et je pense même qu'en fait ces arnaques sont pas forcément inhérentes à l'influence, mais c'est des arnaques qui existent depuis longtemps, qui existent sur des sites web, qui existent via d'autres médias, mais l'influence permet à certaines personnes malhonnêtes de toucher rapidement des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes.
Plus rapidement et plus fortement aussi, puisque au fond, c'est ce que décrivait Marjolaine Corr, c'est le lien très très fort qui existe entre un influenceur et sa communauté.
Oui, il y a en effet un lien fort entre les influenceurs et leur communauté, et c'est justement ce qui fait normalement la beauté en fait de l'influence, c'est la relation qu'on arrive à créer avec sa communauté, et du coup tout ce qui peut en découler de bien. Aujourd'hui, je le disais, il y a 150 000 influenceurs en France. Une extrême majorité qui n'en gagne même pas sa vie. On a 6% des influenceurs qui gagnent plus de 20 000 euros avec cette activité. Donc il faut se rappeler qu'avant tout, c'est des passionnés. Les influenceurs sont des gens qui ont commencé comme vous, comme moi, avec zéro abonné sur les réseaux sociaux, qui ont eu envie de parler de leur passion, que ce soit la cuisine, le bricolage, la pêche, la mode pour mm-hmm. beaucoup, et qui, à force de contenu, de posts Instagram, de stories, ont réussi à générer une communauté de gens qui ont confiance en eux, avec qui ils dialoguent et avec qui ils vivent en quelque sorte, hein, parce que ces influenceurs partagent beaucoup de leur vie avec ces gens-là.
Beaucoup d'ailleurs se définissent eux-mêmes comme des créateurs de contenu plus que comme des influenceurs.
Exactement, c'est là que j'allais en venir. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que on va de plus en plus utiliser le terme créateur de contenu pour se différencier de l'influence néfaste. Et c'est vrai que même nous, chez Rich, on utilise beaucoup plus ce terme. Les créateurs eux-mêmes, ils sont 75% en France à préférer le terme créateur de contenu à influenceur, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'influenceurs, on parle souvent des influenceurs de la télé-réalité, on parle souvent des arnaques, et on parle assez peu de cette majorité silencieuse.
Jean-Baptiste de Boisseau, qu'est-ce que ça vous évoque justement ce lien entre des influenceurs et leur communauté ? Est-ce que au fond le verre est dans le fruit bien souvent, ou vous reconnaissez effectivement que la majorité des liens qui sont tissés entre une communauté et des influenceurs peuvent être sains ?
En fait, la base pour une relation entre un influenceur et sa communauté, c'est la confiance. Et il se trouve que la confiance, c'est aussi ce qui fonde les relations sociales et les relations économiques. Donc c'est sûr que lorsque vous avez ce climat de confiance instauré à votre communauté, c'est excellent pour le meilleur, mais pour le pire aussi si vous abusez de cette confiance. Je crois que c'est Charles Pasquette qui disait « La confiance n'engage que ceux qui la donnent ». Et effectivement, le problème, c'est que vous avez des gens qui ne respectent pas cette confiance donnée.
Marjolaine Corr, dans vos différentes enquêtes, et particulièrement dans l'enquête des jours, vous avez pointé un autre phénomène au-delà même de l'arnaque, c'est celle de la dérive sectaire. Parfois, il arrive que justement certains comptes Instagram, certains influenceurs créent des communautés qui embrigadent certaines personnes et les emmènent justement vers des dérives sectaires.
Oui, parce que ça sort des réseaux sociaux derrière, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et ils constituent une communauté physique, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se motiver les uns les autres. Là, dans ce cas-là, le cas de cette enquête, donc c'était pour la vente de packs de formation au trading, et ils se motivent en se retrouvant régulièrement pour essayer de renforcer leur mental. Le but est d'arriver à vendre plus, et donc on va leur apprendre des techniques et on va leur apprendre qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, qu'il faut tout donner dans les premières années de sa vie pour ensuite avoir la belle vie à Dubaï, comme tous ceux qui sont au sommet de ces pyramides, alors qu'en fait, ils se nourrissent grassement de ce qui est payé par ceux qui sont à la base, comme le rappelait tout à l'heure votre interlocuteur. L'idée est d'arriver à les capturer, c'est-à-dire que petit à petit, on va leur expliquer que ceux qui émettent des doutes autour d'eux sont néfastes à leur progression. Souvent, c'est les parents. Ça va être les copains aussi qui ne rentrent pas dans le jeu. Les enseignants. J'avais un prof d'histoire qui suivait certains jeunes qui étaient tombés dans certains réseaux. Et ils essayaient de recruter leurs profs. Ils n'ont plus aucune limite. Et ce prof me disait, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les plus nuls qui vont dans ces réseaux-là. C'est pas ceux qui n'y arrivaient pas à l'école. Au contraire, c'est ceux qui étaient intelligents et qui, là, se disent, j'ai une porte d'entrée pour trouver ma place dans la société. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, s'il y a des victimes, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas bien rond au niveau de ce qu'on offre à une certaine catégorie de la jeunesse.
C'est quel est le profil de ces victimes, justement?
Alors là, sur le trading, c'était vraiment des classes populaires, souvent de banlieue, qui n'avaient pas fait énormément d'études ou qui arrêtaient ces études. Souvent, j'ai vu des jeunes qui avaient arrêté leur BTS, qui avaient arrêté après le bac, qui avaient été recrutés sur la dernière année de lycée, que les parents avaient poussé à avoir le bac avant de s'arrêter. Et là, ils sont en décrochage et derrière, ils se lancent dans le trading. Et donc, c'est ce type de jeunes qui, on sent bien quelque part dans leur discours que il n'y a pas de place pour eux dans la société, dans le marché du travail, que de toute façon, on ne va pas leur donner un poste aux compétences qu'ils estiment avoir. Donc, ils vont le créer eux-mêmes, le poste, le boulot. Et puis, en fait, ils se créent leur propre société puisqu'ils ont leurs propres règles dans ces schémas pyramidaux. Et donc, le reste n'a plus d'importance. Et ils fonctionnent entre eux. Et en sortir, du coup, devient très dur parce qu'on a détruit ce qui était autour, c'est-à-dire les copains qui nous ont pas cru, qui n'ont pas cru qu'on y arriverait. La famille aussi qui souvent en a ras-le-bol parce que c'est vraiment très prenant, c'est-à-dire qu'ils ont des emplois du temps terribles. En fait, ils sont très, très travailleurs. C'est ça qui est vraiment difficile à comprendre, c'est que ils veulent de l'argent facile, mais ils sont prêts à tout donner pour ça dans les premières années. Donc, ils peuvent se lever à 4h du matin pour se retrouver en visio, pour faire un lavage de cerveau, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont se motiver mutuellement sur les démarches à faire pour pouvoir recruter de nouvelles personnes. Ils font le truc du loup de Wall Street. Ils se retrouvent dans un bar et puis il y en a un qui dit à l'autre, tiens, je te donne ce stylo, tu vas me le vendre. Et voilà, c'est typiquement leur jeu, ça. Et ils vont avoir comme ça un emploi du temps très chargé. Il faut qu'ils fassent de la musculation, il faut qu'ils prennent soin de leur corps. Enfin, tout. Il y a un ensemble qui montre que c'est du domaine de la dérive sectaire, y compris le vocabulaire qui est « tu dois compter que sur toi-même ». Pense à tes objectifs et surtout écarte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le chemin que tu prends.
Jean-Baptiste Boisseau, c'est également ce que vous observez à Signal Arnaque ?
Alors oui, c'est vrai, il y a ce type de population, mais en fait, comme le disait très bien Marjolaine, ça marche vraiment par communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous arrivez bien à rentrer dans cette communauté-là, si vous arrivez bien à lui parler, l'arnaque va se répandre dans ce milieu-là. Mais c'est pas spécifique de ce milieu. C'est-à-dire que vous avez aussi des chefs d'entreprise, vous avez aussi des mères de famille, vous avez aussi des gens qui sont très éduqués. Moi, j'ai vu des gens, effectivement, qui sont des agents immobiliers, qui sont des gens qui connaissent le monde du trading, qui connaissent le monde de la finance et qui se font prendre aussi.
Vous avez pu observer justement des points communs entre ces différents profils, quelque chose qui les rassemblait?
Non, pas véritablement. Pas véritablement. En réalité, chaque histoire d'arnaque est un petit peu spécifique. C'est à un moment ou à un autre, c'est quelqu'un qui va donner sa confiance à une autre personne et qui aurait mieux fait de pas le faire. Et les raisons pour lesquelles on va donner cette confiance, elles peuvent beaucoup changer. Donc, on peut pas généraliser. Faut vraiment être bien clair. Parce que c'est vrai que quand on parle réseaux sociaux, on a un peu le réflexe de se dire jeune. Et en réalité, non. C'est vraiment, ça ne touche pas que les jeunes. Toutes les couches de la société sont touchées, hein, par les arnaques de manière générale. C'est-à-dire, sur les arnaques en ligne aujourd'hui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre classe sociale, il n'y a pas de surreprésentation d'une classe d'âge ou d'une classe sociale donnée. Et concernant les réseaux sociaux, effectivement, la moyenne d'âge est un petit peu plus basse parce que c'est un petit peu plus utilisé par la jeunesse, mais c'est pas réservé à des moins de 25 ans, loin de là, quoi. C'est-à-dire que moi, au contraire, je veux dire, dans la grande majorité, les victimes que je trouve au niveau des réseaux sociaux, c'est plutôt dans la tranche 25-55.
Je voudrais vous faire réagir, Yannick Ponce, à la défense de Shauna Evans, l'une des entreprises qui manage des influenceurs et qui est accusée de pratiquer ce type d'arnaque. Et l'un de ses porte-parole a expliqué qu'il est normal qu'il existe des abus qui peuvent naturellement découler d'un métier, l'influence, nouvellement créé. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Que l'influence soit un métier nouvellement créé, je suis d'accord. Qui
c'est un fait.
qu'il soit normal qu'il y ait des abus, non. Chez Rich, on a toujours été pour la régulation de ce métier. C'est un métier qui est jeune, mais qui a aussi besoin de prouver aux autres leviers marketing que c'est un levier sérieux. Et en fait, il existe déjà des moyens de régulation. Et les dérives viennent forcément d'un acteur ou d'un autre, soit d'un influenceur qui a décidé de développer une arnaque, soit d'une société qui a développé une arnaque, qui va contacter un influenceur et qui, dans ce cas-là, va pas assez bien vérifier avant d'en parler à sa communauté. Nous, dans notre façon de travailler, en fait, on fait tout pour éviter ces dérives. On va pas travailler avec des sociétés qui ont l'air louches ou nouvellement créées ou qui sont dans des industries qui peuvent être risquées, notamment le trading, par exemple. Et surtout, on va conseiller les influenceurs sur le choix de leur partenariat. Et ça, c'est extrêmement important. Les dérives qu'on peut voir aujourd'hui viennent aussi souvent d'influenceurs qui acceptent trop vite des partenariats parce que très bien rémunérés et qui vont directement en parler à leur communauté. Et là, on rompt un peu cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Il y a un lien de confiance qui se crée entre influenceurs et communauté. Et si l'influenceur fait pas son travail, et son travail c'est aussi la vérification du partenaire, et en fait de parler réellement de produits ou de services qu'il apprécie, et pas seulement de produits et services qui l'ont rémunéré pour en parler. Donc nous, on entraîne beaucoup les créateurs de contenu à refuser des partenariats, et ils sont énormément à le faire. Hein. Aujourd'hui, on a 65% des influenceurs qui refusent des partenariats régulièrement.
Parce qu'ils pressentent une fraude, parce qu'ils pressentent une arnaque ?
Pas forcément. C'est pas les seules raisons. Les influenceurs refusent pour plus de la moitié, par exemple, des partenariats parce que ils sont incompatibles avec leurs valeurs. Que ça soit des valeurs de sauvegarde de l'environnement, que ça soit d'autres types de valeurs. En fait, il y a énormément de raisons et nous, on les encourage à refuser. Parce que un influenceur ne peut bien gérer un partenariat, autant du côté annonceur, donc l'entreprise qui va vouloir faire de la publicité, que du côté de sa communauté, s'il y croit et s'il a vraiment envie de transmettre ce message.
Marjolaine Corr, comment les influenceurs arnaqueurs ciblent leurs victimes ? Comment ils les choisissent ? Comment ils les trouvent ? Comment ils nouent un lien particulier avec eux, justement, pour les attirer dans leur filet ?
Alors, ils ont deux catégories. Ils ont les cibles chaudes et les cibles froides. C'est comme ça qu'ils les définissent. Les cibles chaudes, c'est les amis, c'est la famille. C'est-à-dire que
ils utilisent eux-mêmes, pardon, le terme de cible chaude et cible froide.
Oui. Ils ont vraiment deux catégories. D'abord, on leur dit, tu vas voir dans ton réseau pour ta famille, tes amis. Tu vas d'abord les démarcher eux, et après, il faut aller dans la rue. Il faut aller dans la rue et il faut aller. Sur Instagram, ça va être de s'abonner à des comptes pour essayer de démarcher, voire cibler les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées ou qui cherchent un job ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc il y a ces deux catégories-là et donc on navigue de l'une à l'autre et généralement on commence par écluser dans son entourage proche et au passage en général de faire le vide parce qu'on les saoule hein, aussi au passage. Et derrière, aller plus loin. Et c'est aussi comme ça qu'ils vont organiser des week-ends Airbnb. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils vont faire la pub de week-ends des week-ends de formation gratuite, ils appellent ça. Vous pouvez vous rendre dans ces formations. On vous donne l'adresse en message privé pour en fait filtrer, pour voir si le profil correspond, si on est bien dans la catégorie, si on n'est pas un curieux ou alors une personne qui pourrait porter préjudice au système. Donc, on leur vend une formation gratuite pour leur expliquer comment fonctionne la formation au trading. Et là, ils louent un Airbnb assez classieux dans un bel arrondissement de Paris ou autour. Et ils font venir sur des créneaux d'une à deux heures les prospects. Et ils leur vendent leur formation en leur expliquant le système. Et derrière, en fait, il y a des membres de la pyramide qui sont là pour boucler la vente avant qu'ils partent. Et ils essayent d'en faire un maximum. Et derrière, comme ça, ils arrivent à avoir un nombre de clients sous leur... à faire grandir la pyramide. Donc, sous leur propre chapeau, ils arrivent à avoir le plus de monde possible et à faire monter leur revenu personnel de manière à monter, eux, dans la pyramide. Et donc, ils passent des rangs. Et ces rangs leur permettent d'atteindre aussi des finances, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un salaire de plus en plus grand. Et si on a, par exemple, de tête, je vous dirais, une trentaine de personnes sous son chapeau, et ben on va avoir jusqu'à 5 000 ou 6 000 euros par mois. Donc ça va assez vite. Non, 5 000 ou 6 000, c'est beaucoup plus, pardon. Là, ça va être autour de 1 000 euros. Mais voilà, ça peut aller assez vite une fois qu'on arrive comme ça à faire grossir notre propre pyramide. Mais évidemment, il y a énormément d'échecs et moins d'1% de personnes qui gagnent vraiment leur vie dans ce système.
Eh bien, donnons justement la parole à l'une de ces victimes.
Je ne suis pas quelqu'un qui recherche l'argent pour l'argent, mais voilà, juste comme tout le monde, avoir une vie intéressante, pouvoir voyager, parce que c'est un petit peu ce que j'aime faire, voyager, rencontrer des gens. Et je m'étais dit, bon, pourquoi pas mettre mes économies dans ce système-là. Je l'ai fait. Moi, j'ai mis 10 000 euros. J'avais pris un plan qui me donnait du 6% par mois. Cet argent, on vous le promet, il apparaît en bénéfice, en intérêt sur Internet. Et là, vous voyez régulièrement votre solde qui augmente par rapport à la somme que vous avez mise. Par contre, à partir du mois de juillet, au moment donné où vous demandez votre argent, c'est là où ça commence à coincer, entre guillemets, un petit peu, parce qu'on vous trouve tout un tas de prétextes pour vous dire que faut attendre, le site est en maintenance, on va changer de banque, attention, il ne faudra pas le virer là, mais le virer là, etc. Alors là, ça commençait à être un petit peu inquiétant. Enfin, je n'étais pas trop inquiète, mais il y avait des signes dont on aurait pu penser que voilà, il fallait un petit peu être plus pressant par rapport au propriétaire de ce site, au fait qu'on ne pouvait pas retirer notre argent.
France Culture, le temps du débat. Quentin l'a fait.
Un extrait des Pieds sur Terre intitulé « Arrêtez de travailler, devenez trader » diffusé en octobre 2014 sur France Culture. Jean-Baptiste Boisseau, les victimes qui viennent vous voir à Signal Arnaque, à quel point sont-elles démunies? À quel point ont-elles besoin de vous? Et surtout, qu'est-ce que vous leur proposez?
On leur propose de se rassembler justement, parce que malheureusement, en France, elles n'ont pas vraiment de structure pour le faire. En particulier en France, on a un gros problème dans notre arsenal législatif, c'est qu'on n'a pas de vraies class actions à la française. C'est-à-dire, il n'y a pas véritablement...
Les class actions, pour préciser, pardon, les actions de groupe qui permettent à des particuliers de se réunir pour porter plainte de manière collective.
Exactement. Donc, en fait, en France, il y a la loi Hamon qui est prévue pour ça. Mais la loi Hamon, dans les faits, c'est avéré être un fiasco complet, puisque ça oblige à passer par un certain nombre d'associations. Ces associations, elles ne sont pas forcément disponibles pour le faire. Et il y a eu très, très peu d'actions qui ont été menées de ce type jusqu'à présent. Et pour une grande partie, elles ne se sont pas très bien passées. Donc voilà. Donc là, évidemment, en France, on a déjà ce premier problème-là, c'est la possibilité pour les victimes. Alors surtout dans les cas où vous avez beaucoup de victimes sur une petite somme, de pouvoir se rassembler pour pouvoir faire quelque chose. Quand on a des victimes d'arnaques financières, où là effectivement, on est tout de suite sur des montants beaucoup plus importants. Là, c'est un petit peu plus facile de mobiliser les gens et de faire en sorte que ils mènent une procédure, on va dire, synchronisée. C'est-à-dire qu'ils vont se rassembler auprès du même avocat et ils vont faire en sorte que leur plainte soit déposée auprès du même procureur pour augmenter les chances d'une ouverture d'une enquête et puis après d'un dédommagement.
Yannick Ponce, il y a un type d'acteur plutôt dont on n'a pas encore parlé ce soir. Évidemment, ce sont les plateformes Snapchat, YouTube, Instagram. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire par rapport à cela et surtout, est-ce qu'elles agissent aujourd'hui?
Les plateformes agissent un peu sur certains sujets. Il y a déjà une mécanique sur les plateformes qui permet d'agir et en fait qui permet à chacun d'agir, c'est le signalement. Et donc quand on voit des publications d'arnaque ou de potentielles arnaques, j'encourage quiconque à signaler les contenus pour que les équipes des grands réseaux Facebook, Instagram, Snapchat puissent regarder ces contenus et investiguer et supprimer ou non les contenus. La problématique en effet de ces plateformes, c'est qu'elles gèrent un nombre innombrable de contenu à la seconde, à la minute, à la journée. Et en fait, la modération est très compliquée. Donc, ils arrivent aujourd'hui à faire de la modération visuelle. Donc, tous les contenus de type sexuel sont assez vite et même généralement dans la minute retirés. C'est beaucoup plus complexe pour des messages audio, pour des vidéos où en fait c'est la thématique de la vidéo qui est une arnaque en soi.
Mais on a vu parfois des influenceurs, même des couples d'influenceurs qui s'étaient fait épingler, pointer du doigt, et puis qui pouvaient continuer à rester sur la plateforme et à faire comme si de rien n'était, à vendre leur camelot, si je puis dire, comme s'il n'y avait eu jamais aucun problème. Comment est-ce qu'on l'explique ça ? Comment est-ce que se fait-il que les plateformes permettent à ces personnes de poursuivre leur activité ?
Alors généralement ces personnes reçoivent un avertissement, et après un avertissement elles reçoivent une suspension de leur compte. Si derrière elles ne font plus rien qui est répréhensible, elles peuvent continuer, mais elles peuvent aussi assez facilement recréer des comptes. Et c'est souvent ce qu'on voit sur les gens qui ne sont pas des personnalités reconnues, c'est que ces gens derrière recréent des comptes, et c'est là qu'est la difficulté de modération et de suppression des comptes.
Jean-Baptiste Boisseau.
Oui, il y a vraiment des cas aussi où concrètement les plateformes ne font pas le job. Moi, je pense par exemple à plusieurs comptes sur Instagram où vous avez des gens qui font depuis plusieurs années la promotion du trading avec des pratiques commerciales ouvertement trompeuses. Malgré des signalements nombreux et constants dans le temps, il ne se passe rien. Et on voit bien la différence par exemple avec une plateforme comme Snapchat qui a par contre là décidé de faire la chasse aux activités de trading. Eh bien là véritablement il y a eu un sacré nettoyage qui a été fait. Donc à un moment il y a aussi une volonté d'agir, une volonté de mettre les moyens pour le faire. Si Snapchat a réussi, pourquoi Meta n'y arriverait pas ?
Marjolaine Corr, sur ce point, sur la responsabilité, je dirais, des plateformes.
Il faut peut-être expliquer à quel point aussi c'est l'arrivée de ces réseaux sociaux et de ces créateurs de contenu qui sont des particuliers ont fait exploser le cadre qui existait jusque-là. C'est que jusque-là, en fait, les producteurs de contenu, c'était des médias qui avaient des codes et qui étaient aussi très surveillés, devaient respecter des règles. On sait qu'on ne doit pas parler d'alcool, on ne doit pas citer des marques. Et arrivent les réseaux sociaux, arrive toute une... N'importe quelle personne peut faire une vidéo qui va être reprise et propagée, et là il n'y a plus ces codes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre plein de publicité en fait dans votre vidéo. De par exemple, vous faites une pâtisserie, vous allez mettre la farine de telle marque, etc. Et là vous faites de la publicité, vous pouvez avoir été sponsorisé par l'une de ces marques pour faire cette pâtisserie, et vous avez juste à mettre le hashtag sponsorisé. Alors que par exemple, quand vous écoutez une émission, il y a l'émission, ça s'interrompt, il y a la publicité et vous reprenez l'émission. Là, tout est mélangé. Et en plus, il y a un rapport de confiance qui est différent de ce qu'on a quand on voit une page de publicité. Donc, il y a tous ces codes qui ont explosé et qui font qu'aujourd'hui, en fait, au-delà de l'arnaque, on n'a plus aucun repère, quoi. On est en train de les reconstruire et on est vraiment à la base. On a pris conscience de ce problème-là depuis quelques années et c'est vraiment, on en est aux prémices. Et le rythme, en plus des réseaux sociaux, de ces plateformes, n'est pas celui de la législation, de ceux qui font la loi. Et pour l'instant, le cadre juridique, à part pour les enfants, il y en a très très peu, il n'y en a pas, quoi.
Jean-Baptiste Boisseau, est-ce que les pouvoirs publics, eux, ont pris la mesure du phénomène, et surtout, est-ce qu'ils sont capables et en mesure d'agir ?
Aujourd'hui, non. Clairement, aujourd'hui, tous les ans, on nous promet quelque chose, une grande action qui va être menée sur le sujet. On nous l'a dit en 2020, on nous l'a dit l'année dernière. Bruno Le Maire nous l'a redit encore le mois dernier. Et malheureusement, il n'y a pas les moyens qui sont mis. C'est-à-dire que concrètement, il faut des agents à la DGCCRF, il faut...
La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.
Exactement. Il faut plus d'agents d'inspection à l'autorité des marchés financiers. Il faut éventuellement plus. Il faudrait des magistrats spécialisés qui n'existent pas encore sur ce sujet, puisqu'il y a un parquet numérique qui a été créé, mais ce parquet du numérique, il est uniquement dédié aux problématiques de haine en ligne, c'est-à-dire toutes ces problématiques d'escroquerie. Il n'y a pas de parquet spécialisé pour les traiter.
L'État, pourtant, a bien distribué quelques amendes. Je pense à la fameuse amende qui a été donnée à Nabila pour un montant de 20 000 euros.
Oui, mais c'est un peu ridicule, hein. C'est-à-dire qu'on parle d'une action, d'une publicité qui a été faite en 2018, donc sur lequel il y a eu une amende transactionnelle, donc il n'y a même pas eu un procès, hein, qui est sorti en 2020. Donc voilà, Nabila, c'est quelqu'un qui fait à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous lui donnez une amende de 20 000 euros, c'est absolument pas dissuasif.
Effectivement, ça l'affecte.
Surtout 3 ans après.
Ça l'affecte assez peu. Marjolaine Corr.
Oui, on parlait de la DGCCRF. Et effectivement, moi, à chaque fois que je suis allée les voir pour ces questions, soit d'arnaque, soit de la régulation des influenceurs.
Une administration, donc, pour préciser, du oui, ministère de l'économie de Bercy.
Voilà, de Bercy. J'ai bien senti qu'ils couraient après le problème. Et ils ont aussi parlé de la constitution d'une task force qui comprenait la DGCCRF, la DGFIP, donc le service des impôts, l'autorité des marchés financiers, la douane, la gendarmerie, enfin tout le monde est là autour de la table et en fait pour l'instant ils arrivent à sortir un livret de prévention et ça va pas beaucoup plus loin. On sent que vraiment ils peinent à trouver par quels moyens arriver à encadrer ces nouvelles manières de d'échanger, de communiquer et en plus la Miviludes n'est pas dedans. Alors que la Miviludes, c'est sur les dérives sectaires et que très souvent, il y a un lien.
La Miviludes étant la mission interministérielle chargée
de lutte contre les dérives sectaires.
Ouais. Yannick Ponce, comment vous envisagez-vous, comment vous percevez l'action justement de l'État? Est-ce qu'elle peut être utile et efficace?
Alors, je voulais aussi revenir sur quelque chose qui avait été dit tout à l'heure. Le cadre sur la publicité en ligne, il existe. Donc il y a évidemment, vous l'avez cité, la loi sur la transparence qui oblige chaque influenceur à dévoiler les partenariats rémunérés. Mais il y a aussi d'autres lois qui s'appliquent à l'influence. Hein. Je pense notamment à la loi Evin sur la communication pour les boissons alcoolisées. Et en fait, l'influence doit respecter toutes les lois sur la publicité. Oui, l'influence a cassé quelques barrières et a changé un peu le modèle, mais la publicité intégrée dans le contenu, elle existait aussi déjà avant. Le public rédactionnel existait avant. Donc oui, ça a accéléré les choses. Et pour revenir à votre question
sur le rôle des pouvoirs publics,
y a déjà des acteurs aujourd'hui qui essayent de mettre des choses en place. On travaille beaucoup avec l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc qui ne fait pas partie des pouvoirs publics, qui est une qui a pour but d'autorégulation des acteurs de la publicité et donc de l'influence dans notre cas. Je pense que la première étape déjà, c'est de faire de la formation et de l'information auprès de ces créateurs. Ce qui est vrai, c'est que ces créateurs, souvent, ils sont jeunes, ils ont commencé sur les réseaux sans connaître les règles de la publicité et d'un coup se retrouvent avec 200, 300 000 abonnés et ont des marques qui les contactent pour faire des partenariats. Et c'est là que les agences comme nous, les professionnels de l'influence, l'ARPP, doivent être là pour les former, pour les informer sur les règles à suivre. Et déjà, ça sera le premier pas vers une influence de plus en plus propre. Sur le rôle de l'État, en effet, le problème est un peu complexe parce que on a parlé de plein de types d'arnaques en fait aujourd'hui. On centralise tout ça sous le chapeau de l'influence, mais on a parlé d'arnaques financières, de dérives sectaires, d'arnaques commerciales. Et en fait, ce sont à chaque fois des arnaques où il y a des règles, il y a des lois qui existent. Et du coup, pour moi, la solution est plutôt dans le comment on arrive à pas les interdire, parce que c'est déjà interdire, mais à appliquer la loi aujourd'hui.
Jean-Baptiste Boisseau, vous êtes d'accord avec cette idée ?
Alors moi, l'autorégulation dans le domaine de l'escroquerie, j'y crois pas. C'est-à-dire effectivement,
c'est assez peu convaincant, effectivement.
Il y a déjà des règles et elles sont pas respectées, donc je vois mal comment l'autorégulation pourrait faire quelque chose. Moi, je vous rappelle que en 1991, vous aviez Daniel Gilbert qui avait fait une publicité pour une bague qui donnerait des pouvoirs, qui donnerait de la chance, et 2 ans après, elle avait été condamnée à l'équivalent d'à peu près 50 000 euros d'amende pour cette publicité. Et elle avait passé 7 jours en prison. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Ça n'existe plus, ça. Donc, effectivement, c'est parce qu'il y a un travail, concrètement, de répression qui n'est pas fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment d'impunité totale.
Marjolaine Corr, vous qui travaillez sur le sujet depuis déjà plusieurs années, qu'est-ce que vous pensez justement de la polémique qui est née la semaine dernière et de la lumière que le rapport Bouba a mis justement sur ce type de pratiques et sur ces arnaques ?
Je crois que C'est du côté de la télé-réalité qu'il y a beaucoup de ménage à faire parce que...
Alors peut-être expliciter le lien justement entre télé-réalité et influence dans ce domaine-là.
Ouais, bah les influenceurs qui font beaucoup de grabuge, en tout cas qui propagent beaucoup d'arnaques, sont souvent les influenceurs issus de la télé-réalité qui peuvent très très vite en fait avoir beaucoup d'abonnés. Bon. Après, on pense ce qu'on veut de Booba, il a permis de mettre au moins le sujet sur le tapis. Mais oui, et en fait, les arnaques, c'est on les voit par ce biais-là, par ces influenceurs. Mais ce que je disais au début, il y en a de partout. Donc c'est compliqué en fait de les cibler. Eux, ils font un effet loupe, quoi. Donc c'est si derrière il y a une action qui viendrait effectivement des pouvoirs publics, ce serait bénéfique. Mais pour l'instant, bon. C'est une bataille.
Et bien sûr, on ne dira pas dans cette émission que Booba est un lanceur d'alerte, car ses intentions sont pour le moins assez troubles. Mais est-ce que Jean-Baptiste Boisseau, le dispositif que le rappeur a créé, justement, cette adresse mail qui vient d'être créée pour permettre des signalements, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous aide et qui peut être utile au fond ?
Ce qui est utile, c'est de faire la lumière sur le sujet. Voilà, ça c'est utile. Après, la bonne méthode, c'est que les victimes se constituent en collectif. Et que les victimes puissent se rassembler, se prendre en main et mener les actions ensemble. Elles n'ont pas à déléguer ça à une personnalité qui n'a rien à voir avec leur problématique. C'est très bien que des personnalités mettent en lumière le problème. Et d'ailleurs, justement, Booba a mis la lumière sur un collectif de victimes qui a pu effectivement mener une action d'ampleur suite à cette mise en lumière. Mais ça devrait s'arrêter là. Voilà, c'est après, d'après moi, hein, c'est aux victimes d'aller se rassembler et d'aller faire en sorte qu'il y ait des actions qui sont menées. Et puis évidemment, après, il y a aussi les autorités qui devraient s'auto-saisir, qui devraient prendre les affaires en main d'elles-mêmes.
Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus en studio ou à distance débattre des influenceurs arnaqueurs et de l'impact qu'ils ont et des victimes qu'ils créent. Merci à tous les trois, Jean-Baptiste Boisseau, Yannick Ponce et Marjolaine Corr. À la préparation ce soir, c'était Jeanne Copet, Aliette Ovine, Anna Folpin, Rodolphe Dourouni et Lou Garnier. À la réalisation, c'était Jean-Christophe Francis, accompagné de Yanis Hachmi, et à la technique, Marie-Claire Wamabadi et Élise Le. Et demain, dans le temps du débat, nous reviendrons sur la fin d'Aman al-Zawahiri. Est-ce que c'est la fin du terrorisme global ou non ? Nous en discuterons avec nos trois invités.